France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Hélène Frédéric. Au saut du livre, nous avons un peu de mal avec les romans qui parlent de leurs auteurs. Or, nous avons adoré votre nouvel ouvrage. C'est un livre qui part de vous pour nous conduire vers l'histoire des métiers, l'histoire des classes sociales, des femmes, des courants politiques. Le tout avec beaucoup de sensibilité et le style original mais fluide qu'on vous connaît. C'est un beau livre, un livre total.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Plus les fautes sont grosses, moins on les remarque aujourd'hui dans votre book club, et c'est dommage parce que la narratrice du nouveau livre d'Hélène Frédéric en est plutôt friande. Au pays de l'exactitude de la langue, elle aimerait volontiers être une gigantesque coquille avec des bras, des jambes et un sexe. Une femme, correctrice de métier, s'interroge sur ce que c'est de passer des heures à redresser la langue des autres, tout en plaçant la liberté, la poésie, l'imagination et le désir au-dessus de tout. Dans un texte composé de fragments, souvenirs, notes, l'écriture lézarde et agence un contenu bientôt autobiographique, réconciliant la femme de lettres et la figure de l'ouvrière. Hélène Frédéric est notre invitée. Ensuite, et comme chaque semaine, nous avons rendez-vous avec Mathilde Wagman. Elle nous parle littérature jeunesse et évoque aujourd'hui les Peanuts de Schultz, chef-d'œuvre de la bande dessinée américaine des années 50, réunis dans un recueil. On est ensemble pour une heure. C'est bien ? Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Je suis joyeuse, que vraiment on a adoré ce texte. Bonjour Hélène Frédéric.
Bonjour Marie.
Lézarde, c'est le titre de votre nouveau livre paru aux éditions Verticales. Soyez la bienvenue dans le Book Club. Ici, tout commence toujours par un questionnaire lecture. C'est notre manière de faire connaissance avec les gens qu'on invite autour de notre table. Et dans votre livre, vous parlez, en tout cas votre narratrice parle du peuple des livres, d'un certain peuple des livres. Et c'est d'ailleurs très important qu'elle utilise ce mot peuple avec toute sa résonance politique possible. Est-ce que vous en faites partie de ce peuple des livres? Et est-ce que vous auriez à nous donner une forme de définition, une manière de délimiter le territoire du peuple des livres?
C'est une belle question. Oui, je pense que je fais partie du peuple des livres, comme tous les lecteurs, comme pas mal d'auteurs aussi. Je considère que le geste de lire et le geste d'écrire sont très liés. Peut-être que je peux parler de mon entrée en lecture pour commencer, pour me présenter aux auditeurs. Bon, à la maison, il y avait très peu de livres, mais il y avait des ouvrages plutôt pratiques, de botanique. Mes parents n'ont pas pu s'instruire beaucoup. Ils ont dû aider leur famille. Ils ont dû aider à subvenir aux besoins de la famille. Ils ont donc dû arrêter leurs études très tôt. Mais il y avait quand même la présence d'ouvrages, comme je l'ai dit, de botanique, d'ouvrages sur les oiseaux, d'ouvrages sur la photographie.
Pourquoi ces champs-là en particulier?
Alors, ça correspond aux passions passagères de mon père autodidacte. On va sûrement revenir sur peut-être l'autodidaxie qui est très présente dans mon histoire familiale, dans mon histoire et dans l'histoire des correcteurs. Et donc, j'ai quand même grandi entourée de livres et j'ai souvenir, entre autres, d'un grand atlas mondial qui m'impressionnait beaucoup et qui était très lourd. Et je me souviens de l'avoir mis sur mes genoux quand j'étais petite et j'avais du mal à le soulever, même à le mettre sur mes genoux. Mais j'ai souvenir de pages glacées où on voyait des volcans incroyables et tout. C'est mon premier contact avec les livres.
Et aussi l'idée que ça pèse, le savoir.
Oui, que ça pèse. Et aussi, cet ouvrage, il était obsolète, c'était assez rigolo parce qu'il était déjà très vieux. Et donc j'avais conscience que les frontières avaient bougé depuis. Enfin bon, ça me faisait réfléchir tout ça. Et par ailleurs, on m'offrait parfois des livres et comme les livres étaient rares, ils étaient précieux et donc je relisais énormément ces livres des tonnes de fois. Bon, des albums, des... Et la bibliothèque aussi a joué un rôle important puisqu'il y avait peu de livres à la maison.
Donc la bibliothèque de la ville ou du village?
Ouais. La bibliothèque de la ville, enfin du petit village, et bibliothèque scolaire. Et bibliothèque encore aujourd'hui, si je fais un saut dans le temps, puisque j'ai écrit mes romans, mes trois premiers romans aux éditions Verticales, je les ai écrits à la BNF, à la recherche d'un espace où je puisse me... Donc j'étais je considère que c'est en plein cœur du peuple des livres, puisque...
Oui, vous y étiez bien, donc la BNF, Bibliothèque Nationale de France, oui, à Paris.
Oui, ouais. Comme la plupart des usagers, j'avais un rapport un peu amour-haine avec cet espace, parce que c'est assez étonnant. Je pense entre autres aux chercheurs un peu vieillissants que je côtoyais. C'est plus ou moins adapté, je trouve, parce que c'est des distances énormes à parcourir. Mais ce qui était extraordinaire, en tout cas pour moi au début, c'était d'imaginer que j'étais entourée de tous les livres. Et entre autres, j'ai travaillé longtemps dans une salle où il y avait toutes les littératures étrangères et donc des livres aussi de langues étrangères. Et il y avait quelque chose d'extraordinaire de pouvoir. Après, c'est un peu intimidant aussi, mais ça m'a aidé aussi à me discipliner dans l'écriture ou à être entourée de. Mais je m'éloigne un peu peut-être de la question.
Non, on y est. Hein, de toute façon, j'ai commencé par parler du peuple des livres, donc on est quand même vraiment dans la question, Hélène Frédéric. Ouais.
Et j'ai souvenir aussi de bibliothèques scolaires où j'étais assez peu guidée dans mes lectures et pendant longtemps, je ne savais même pas que la littérature existait d'une certaine manière. Pour moi, il n'y avait pas de distinction entre romances traduites de l'américain. J'ai longtemps lu des petites romances à l'adolescence sans savoir qu'il y avait autre chose et qu'on considérait d'ailleurs ces livres comme de la littérature. Et voilà. Et j'ai une meilleure amie d'adolescence qui m'a un peu initiée... à des auteurs plus valorisés en littérature. George Sand, par exemple, elle m'avait prêté La Petite Fadette de George Sand et aussi Frankenstein de Mary Shelley. Et en y repensant, je me rends compte que
c'est rare,
sont des
deux autrices, ouais, ouais, exactement. Voilà, il faut le noter quand même.
Oui, ses parents, elle, il y avait beaucoup de livres chez elle. Et ses parents aussi étaient autodidactes, étaient de grands lecteurs et plutôt très engagée à gauche aussi. Je pense que c'est pour ça qu'il y avait pas mal de... Enfin, sa mère était féministe et tout ça. Donc, voilà, c'était mes premiers contacts et peut-être une anecdote. Justement, je me sentais peu guidée. Peut-être que d'autres se reconnaîtront dans ce portrait. Je me sentais peu guidée, donc je ne savais pas comment choisir les livres que je lisais à la bibliothèque, par exemple, de l'école secondaire au Québec. Et... Je me rendais compte que j'étais trop influencée par l'apparence des livres, par exemple. J'étais portée à prendre le livre que je trouvais beau, alors que ça n'a absolument aucun lien avec le contenu, normalement. Et donc, je m'obligeais à choisir des livres les yeux fermés. Je fermais les yeux et je prenais un livre au hasard. Et ça donnait des choses parfois un peu catastrophiques, mais des fois des surprises intéressantes. Voilà,
Mais c'est intéressant que vous mentionniez l'idée de fermer les yeux et de prendre au hasard Hélène Frédéric, parce qu'à plusieurs reprises, vous avez précisé non seulement que vos parents étaient des autodidactes en lecture, et puis on verra le rôle qu'a, on va dire, accumuler ou acquérir du savoir en chemin buissonnier dans le livre que vous écrivez, mais aussi que les parents de votre amie étaient autodidactes. Alors, je dis pas que l'autodidaxie a quelque chose à voir avec le hasard, mais peut-être avec le vagabondage, avec quelque chose qui irait ailleurs qu'un ordre, avec quelque chose qui irait ailleurs qu'un socle de savoir établi, un corpus qu'on reproduirait. Qu'est-ce que ça change pour la lectrice que vous êtes? Qu'est-ce que ça a formé chez vous comme façon de cheminer dans ce grand pays qui serait la littérature? Si vous pensez que ça change quelque chose, moi je pense que ça forme des lectrices et des lecteurs particuliers. Mais
c'est-à-dire qu'il y a l'idée de liberté forcément qui va avec le vagabondage. Après, c'est tout un autre aspect, mais il y a aussi quand même la question d'origine sociale qui est liée à ce vagabondage. Pourquoi j'étais peu guidée? C'est pour des raisons d'origine sociale modeste, etc. Et ça peut créer aussi une difficulté à s'autoriser. Il n'y a pas que du positif, il y a l'idée de la liberté, mais il y a aussi comment m'autoriser, même à lire certains livres, comment m'autoriser encore plus à écrire plus tard.
Et c'est passé par quoi alors? Parce que vous dites cette amie, elle vous a autorisé. Et qu'est-ce qui a produit une autorisation qui a fait que oui, vous êtes dit oui, je vais y aller façon?
J'ai envie de dire que c'est une question qui se pose sans cesse. C'est pas quelque chose
qui est résolu.
Non. Ouais. Et il y a une contradiction ou un paradoxe dans ce phénomène, c'est que c'est difficile de m'autoriser, mais ça crée cette tension-là, cet interdit d'une certaine manière, crée un désir, puisque j'ai pas le droit, enfin théoriquement j'aurais pas le droit, il y a quelque chose de difficile à faire cohabiter Hélène qui a travaillé dans l'atelier de son père réparateur de moteurs électriques avec Hélène qui sait d'écrire, mais cet interdit ou cette difficulté, c'est aussi le moteur, c'est-à-dire que...
C'est le cas de le dire.
Pourquoi ? Oui, c'est aussi ce qui permet de... Bizarrement, c'est les bâtons dans les roues me donnent aussi l'énergie ou en tout cas la volonté de... Peut-être que s'il n'y avait pas cette tension, il n'y aurait pas le désir d'écrire. C'est ce que j'ai compris assez tardivement. Mais
Enfant et adolescente, vous savez qu'il y a quelque chose d'a priori non réconciliable entre une origine sociale modeste ou plutôt du côté du travail manuel et la chose intellectuelle que serait le travail de l'écriture et de la lecture. Vous le sentez ?
Probablement. Tout en sentant quand même... parce que j'étais loin de mes petits copains, j'avais beaucoup de temps, j'étais très seule quand même avant des années plus tard où j'étais plus à l'université par exemple, où là c'était différent, mais j'ai eu le temps de rêver beaucoup, le temps de m'imaginer des... Enfin, je m'imaginais aussi que tout était possible, hein, donc... Mais ça, j'en parle aussi. Travailler avec mon père, par exemple, ça me mettait tout de suite en contact avec une certaine injustice sociale, enfin, forcément, puisqu'on suait sang et eau pour réparer, par exemple, le moteur de piscine d'une personne qui avait une piscine. Ces réflexions où j'étais révoltée, puisque j'étais adolescente, je me disais, moi.
Et puis c'était extrêmement concret, c'était devant
oui,
vos yeux.
Oui, très concret.
C'est-à-dire que le rapport de classe, il était manifeste.
Voilà, ouais. je le réfléchissais pas, c'est pas quelque chose. D'ailleurs, j'ignorais totalement le concept de lutte de classe à cette époque-là. Mais c'est quelque chose que je ressentais dans ma chair et que, d'une certaine manière, il y avait un déterminisme là-dedans que je refusais. Mais en même temps, aujourd'hui, et dans ce livre, entre autres, d'une certaine manière, je me réclame de ces origines parce que j'y vois une richesse aussi. Enfin, j'y vois une autre richesse, enfin, quelque chose qui est peut-être peu valorisé, mais j'essaie de peu valoriser dans le monde dans lequel on évolue, mais... ou dans le monde de l'apparence, ou enfin, je sais pas. Mais c'est ce que j'essaie de creuser dans ce livre. Mm-hmm. Enfin, d'une certaine manière, quand je dis faire cohabiter Hélène de l'atelier avec Hélène qui écrit, c'est ça aussi. C'est... Bon, y a beaucoup le concept de transfuge de classe qui m'intéresse et je me l'approprie aussi, d'une certaine manière. Mais en même temps, récemment, je me disais qu'en quelque sorte, je ne suis pas transfuge de classe. Je suis toujours... de ma classe. Enfin, d'une certaine manière, je m'en réclame aussi. C'est un peu contradictoire, mais je me dis, mais pourquoi je devrais être gênée de venir d'où je viens et en quoi ça ne pourrait pas être au contraire, une force d'une certaine manière. Donc, enfin bon, c'est tout ça qui... je m'éloigne de la question d'origine.
Pas du tout, absolument. On y reste, je vous rassure. Mais je vais même y rester encore un petit peu, Hélène Frédéric, c'est que dans ce que vous racontez là, quelle place ont les livres ? Est-ce que dans ce que vous décrivez d'abord comme un trajet d'une classe à l'autre, puis en fait, non, j'ai pas forcément migré d'une classe à l'autre, je suis peut-être toujours dans cette classe, mais avec... autre chose, des choses que n'avaient pas mes parents, un rapport peut-être aux lettres ou aux livres que n'avaient pas mes parents, et en même temps pas complètement parce qu'il y avait des livres chez vous et que vous leur donniez tout de même de la valeur. Les livres, est-ce que ça a eu un rôle particulier ?
Mais c'est-à-dire que je lisais tout ce qui me tombait sous la main, je lisais à l'école, les lectures scolaires, je me précipitais, alors que je me souviens que les autres élèves parfois disaient « Oh, j'ai pas envie » parce que c'était obligatoire. Moi, j'étais assoiffée, donc je m'en nourrissais beaucoup. Et je me souviens que je lisant beaucoup de choses, même des choses pas très intéressantes, je me souviens d'avoir par moments tellement lu que je vivais en me racontant ce que j'étais en train de vivre dans ma tête, comme si j'étais en train de l'écrire. Donc j'avais déjà, je pense, un désir de penser et d'écrire ce que je vivais, sans savoir comment ça fonctionnait, enfin sans savoir comment j'allais y arriver, sans savoir quoi que ce soit. J'aimais beaucoup... En fait, d'ailleurs, même avant de savoir lire ou écrire, je faisais semblant de... Mais je me souviens d'avoir été très frustrée en voyant mon père lire et en me disant « j'ai pas accès à ces signes-là, je peux pas déchiffrer ». Enfin bon. Mais ensuite, à l'université, c'est à l'université que, en tombant sur certains auteurs ou certains livres, le déclic s'est fait, où j'ai vu que la langue pouvait accueillir une part de mysticisme et d'érotisme mêlés, par exemple dans Georges Bataille, alors que je connaissais encore très mal la littérature, mais j'étais tombée par hasard sur Georges Bataille.
Au début de vos études ?
Ouais.
Et sacrée rencontre.
Ça a été un choc, oui. Ça a été un choc et je pense que ça rime avec tout ce que je disais tout à l'heure sur l'interdit, sur de découvrir que c'est un territoire, la création finalement, pas seulement l'écriture, mm-hmm. mais que c'est un territoire où justement tout ça peut cohabiter et où le corps aussi peut vibrer, parce que ça c'était très important. Ça m'a appelée, mais tout doucement, par toutes sortes de chemins très chaotiques. Voilà, les premiers textes c'était de la poésie pour des lectures publiques que je voulais pas forcément publier, mais oui, c'est ça.
Est-ce que vous vous souvenez des lectures? Donc, vous avez quand même déjà cité pas mal de noms, en fait, de moments de rencontres pour vous avec la littérature. Est-ce que, après ce cadeau d'une copine qui vous fait découvrir Georges Sand, après ce choc de Georges Bataille au début des années universitaires, mais aussi avant cela, peut-être de la romance traduite de l'américain, donc ça trace déjà une sorte de cartographie pour vous, Hélène Frédéric. Est-ce qu'il y a des choses qui, comme ça, sont vraiment des évidences dans votre vie de lectrice ensuite? Des choses marquantes,
des auteurs, moments marquants, des textes. J'ai parlé de Georges Bataille tout à l'heure, et très précisément l'histoire de l'œil. Je me souviens très bien d'avoir été complètement transformée par cette découverte-là. Après, je pense que ça a été avec la poésie. La poésie où j'ai senti justement un territoire de liberté, où je côtoyais des jeunes étudiants qui écrivaient de la poésie, très simplement, sans difficulté, en tout cas apparente, à s'autoriser à écrire. Et c'est comme ça que je suis entrée. Et la poésie au Québec, c'est aussi tout un monde, très vivant. Je peux dire que c'est pas vivant en France, mais ça fait partie du quotidien presque. Enfin, il y a quelque chose de très... il y avait énormément de soirées, de micros ouverts à tous, sans qu'on ait publié quoi que ce soit.
Auxquelles vous participiez autant en tant qu'auditrice qu'en tant que performeuse ensuite?
Oui, un petit peu, mais de manière très discrète, juste... parce que j'aimais beaucoup la parole, j'aimais beaucoup la musique aussi, et le fait que ça passe par la parole, par la voix, ça m'intéressait beaucoup.
Ce qui nous renvoie peut-être à des souvenirs qui sont rapportés par la narratrice qui se confond avec vous dans ce livre, Hélène Frédéric, au fait que vous écoutiez dans l'atelier de votre père Brel, Barbara, Ferré. Et ça rejoint les deux choses que vous venez de dire là, c'est-à-dire la parole et la musique. C'est vraiment tout un répertoire, cette chanson écrite en français et chantée en français, qui est le vecteur de ça, Hélène Frédéric, non ?
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai été très souvent déchirée entre musique et... littérature et même écriture à plusieurs étapes de mon apprentissage, je vais dire.
Mais comment ça a déchiré?
C'est-à-dire que j'ai cru devoir choisir.
Entre l'amour de la chanson et l'amour de la littérature.
entre la musique.
Mais appelez-moi dans ces cas-là, parce que vraiment, je vous dirais, il n'y a pas de problème. On peut vraiment vivre avec les deux.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, à un moment donné, j'allais entrer au conservatoire, de manière très modeste, en violoncelle. Mais très tardivement, j'avais 36 ans, je pense, voire presque 40 ans, je ne sais plus. J'avais une bourse pour écrire un livre et ce n'était pas raisonnable de faire les deux. Enfin, ça n'avait pas de sens. J'essayais de gagner ma vie à côté en plus et tout ça. Et je rencontre une compositrice de musique et je lui confie C'est une compositrice chinoise qui s'appelle Lele Tian. Et je me souviens très bien de cette soirée. Elle me dit, mais tu sais, quand on ne peut pas choisir, il faut tout prendre. Et donc, j'ai essayé de tout prendre pendant un moment, mais ce n'était pas possible. Donc, effectivement, je pense que c'est possible de faire les deux, mais j'aurais voulu tout donner à la musique, par exemple, ou tout donner à la littérature. Donc, j'ai fait mon choix plutôt vers la littérature. Mais...
On va parler de votre livre, alors. Juste après cette chanson interprétée par Alain Bachung, d'abord en 1993, mais ici, on va l'entendre dans la version que propose le chanteur Hervé. C'est une reprise qui figurait sur son premier album Hyper, sorti en 2019. Une chanson qui, comme votre livre, va de l'évocation du rapport au langage à celle du rapport amoureux.
Dans des murmures, on se pend au bout. du reste on n'en a cure. La peur des mots m'incite à des caresses volubiles, à des balbutiements, à des balbutiements ardents et volatiles. Tue-moi, je te couvrirai. Tue-moi, je te couvrirai de baisers.
Club, Marie Richeux.
L'humain fait encore et plus que jamais des fautes. Les faits doivent plus que jamais être vérifiés et la nécessité de chasser les coquilles et de réfléchir collectivement au sens des phrases pour les rendre intelligibles demeure. Pour certains, c'est fâcheux, pour d'autres, c'est un ravissement. On peut dire sans se tromper que la narratrice de votre nouveau livre, Hélène Frédéric, se tient du côté du ravissement. Elle exerce le métier de correctrice et les fautes d'orthographe, elle aime ça. Ces fautes de la langue appartiennent au grand territoire aimé lui aussi de la transgression, celle d'un corps qui pense et désire librement, bref, des fautes à épouser plutôt qu'à corriger. Lézarde, c'est le titre de ce très beau livre paru aux éditions Verticales et on en parle avec vous, Hélène Frédéric. Alors, il y a un grand plaisir du vocabulaire dans ce livre-là. Vocabulaire qui nous emmène à chaque fois sur la piste de plein de choses et qui nous emmène souvent sur pas une seule piste. Ça, le plaisir. Le titre de votre livre, c'est Lézarde. Est-ce que vous voulez bien nous donner une définition, peut-être d'abord technique ?
Mais je vais vous livrer la définition
la vraie.
En exergue oui, du livre, la définition de Jeanne Boutmy, qui était typographe, qui vient d'ailleurs, la définition qui vient du dictionnaire de l'argot des typographes. Raies blanches produites dans la composition par la rencontre fortuite d'espaces placés les unes au-dessous des autres. On y remédie par des remaniements. Donc c'est un phénomène qui n'existe plus trop maintenant parce qu'on a des logiciels qui empêchent que les lézards apparaissent dans la page, enfin ces espaces les unes au-dessous des autres créent des espèces de failles dans la page.
Essayez de visualiser pour celles qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent. Moi je vois ça plutôt dans des articles, hein, on est d'accord.
Oui.
Vraiment une page que vous la lisiez numériquement ou sur papier qui est comme zébrée quoi en fait. Si on plisse un peu les yeux et qu'on voit le corps du texte comme une espèce de masse un peu plus sombre, il y a un éclair quoi. Il y a un éclair ou il y a une sorte de, ça peut être une sorte de brisure dans du bois ou un... Voilà, c'est tout, c'est la fin de ma description.
Très belle description.
C'est bon ? Voilà, c'était juste pour accentuer un petit peu la visualisation de ce phénomène. Mmh. Donc lézard, il y a ce mot-là, en effet.
Oui, et je m'en sers dans le livre comme d'un motif, évidemment. Enfin, le titre initial, c'était... plutôt la faille, et un livre est sorti sous ce titre-là entre-temps, et j'ai dû changer. Et eh bien, ça a été aussi l'occasion, de toute façon, l'écriture du livre, de fouiller l'argot des typographes et sa richesse. Et il y a beaucoup de mots de cet argot qui existent toujours dans le métier de correcteur, enfin, qu'on utilise encore aujourd'hui. Ce sont des mots qui m'ont étonnée quand j'ai commencé à travailler dans la presse, par exemple, comme correctrice. Et j'ai senti quelque chose de quelque chose de pétillant dans la présence de ces mots encore présents, et parfois un peu vieillots, mais qui ont survécu, comme le marbre, comme l'idée de marbrer, de textes marbrés, c'est-à-dire de textes mis de côté en attendant d'être publiés, et qu'on corrige parfois quand même, et qu'on a corrigé pour rien, entre guillemets, parce qu'ils ne paraissent pas tout de suite. Et dans le livre, j'imagine une part marbrée du monde, c'est-à-dire une part potentielle.
En attente.
Voilà, en attente. Et je compare un peu la littérature ou le monde de la littérature ou des livres à cet espace d'attente. Voilà, donc ça a été l'occasion de m'amuser avec ces mots, essayer de les rendre encore, de leur donner une présence. Il y a aussi le verbe nourrissonner qui a compté. Donc le nourrissonner, c'est le fait de prendre sous son aile quelqu'un à qui on apprend le métier de correcteur. Ça, c'est un mot qui est en train de disparaître parce que c'est un phénomène qui n'existe plus trop, mais je considère que j'ai été nourrissonnée par Jean, le personnage, enfin la narratrice de Lézard a été nourrissonnée par Jean.
On va y venir dans un instant, parce que la question de la transmission et de toutes les figures de passeuses ou de passeurs dans votre livre est très important. Mais ce qui est aussi notable quand on vous voit utiliser ce vocabulaire précis, Hélène Frédéric, c'est qu'on sent que ça rend palpable et vibrant, l'histoire de métier, l'histoire de gestes, l'histoire de pratiques. C'est-à-dire que continuer de prononcer certains mots, c'est continuer de faire vivre certains gestes, certaines pratiques qui, par ailleurs, peuvent mourir. Et donc, c'est le cas dans ce métier de correctrice ou correcteur, mais c'est le cas de manière générale. Et puis, c'est aussi le cas, par exemple, dans des luttes politiques. En fait, à chaque fois que des mots correspondent à des gestes précis dans des communautés, continuer de les prononcer, c'est aussi un geste.
Exactement. C'est rendre vivant, enfin, maintenir quelque chose de vivant dans un métier, effectivement. Mais d'ailleurs, un des points de départ du livre, c'est aussi... en apprenant le métier, j'apprends qu'il est en voie de disparition, mais il est en voie de disparition depuis longtemps.
Ce métier de correctrice,
oui, métier de correctrice. Mmh. Et bien, par ces mots, effectivement, il y a quelque chose d'encore vivant que j'essaie de conserver, ou de, en tout cas, j'y vois quelque chose de précieux que j'essaie de... que j'essaie de rendre à la vie dans ce livre, ou en tout cas de montrer qu'il a encore aussi un rôle à jouer. Et voilà. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui prend du temps. Et il y a cet aspect du temps aussi qui est quelque chose que j'ai voulu creuser dans Lézard. Ce temps qu'on ne valorise plus beaucoup, en fait, qu'on valorise seulement quand il est très court, finalement.
Et rentable.
On veut gagner du temps, oui, c'est ça. Cette idée de rentabilité, ça suppose de réduire le temps. Et j'ai voulu questionner qu'est-ce qu'il y a dans ce temps qu'on ne se donne plus. Et voilà.
Ce qui nous fait entendre, et c'est ça aussi le côté savoureux de la manière dont vous rendez vibrant ce vocabulaire technique à propos du métier de correcteur, c'est que ça vibre toujours d'un second sens. Par exemple, ce lézarde peut aller du côté de lézardé, d'un temps plus oisif, plus propice à la rêverie, plus ouvert, moins pressé par la rentabilité du travail. Et en fait, chacun des mots va aussi comme se parer d'un autre sens. Je pense aussi à castin. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est que le castin, Hélène Frédéric, et dire à quoi ça vous sert aussi? À chaque fois, ça vous permet de créer des nouvelles images d'une certaine manière.
Oui, alors le castin, c'est la petite case de la casse typographique, c'est-à-dire cette case, c'était une sorte de tiroir dans lequel on rangeait, j'utilise l'imparfait parce que ça existe encore parce que certains éditeurs impriment encore au plomb, mais c'est plutôt rare.
Du coup, c'est très rare.
mais donc, la case, c'était ce grand tiroir dans lequel on rangeait les caractères typographiques. Et le castin correspond à chaque case de cette case. Et c'est le surnom que l'on donnait, et que l'on donne encore, au bureau des correcteurs. En sous-entendu, c'est un tout petit espace, finalement, on leur laisse assez peu de place. Et donc, je l'utilise beaucoup dans le livre, parce que le premier emploi de correctrice que j'ai eu, on appelait le castin, le bureau dans lequel on travaillait à plusieurs. Voilà.
Et comme par ailleurs, c'est un texte qui se demande beaucoup comment échapper au phénomène restricteur d'être mis dans des cases. Du coup, voilà, à chaque fois, il y a quelque chose de l'image qui s'amplifie. Vous avez parlé de Jean et de cette narratrice qui est nourrissonnée, qui apprend son métier de Jean. On écoute un extrait de votre texte.
Devant tes yeux, un écran, puis l'écran de Jean, et ses cheveux qui en émergent, et sa gouaille de titi parisien à contre-jour. Tu dois tout à sa générosité. Jean t'apprend les rudiments et les finesses du métier, l'importance de faire preuve de souplesse dans la rigueur, le rôle primordial de la vérification des informations, savoir jusqu'où vérifier en tenant compte de la contrainte de temps et l'art de la ponctuation journalistique. Les difficultés du français, des centaines, des milliers de règles pour autant d'exceptions, ne sont qu'un élément parmi d'autres à surveiller. Tu n'oses pas écrire « maîtriser ». Rien que la ponctuation te coûte au début des angoisses et des remises en question. Elle a des velléités anarchistes chez toi. Trop de virgules, c'est trop de balises. Tu avais tendance à ne pas en exagérer l'usage. Elle te semble parfois imposer son rythme de respiration au destinataire. Trop le brider, rendre le doute et les hésitations impossibles, rompre un élan. Tu te mets à craindre la virgule. Elle a décidément trop de pouvoir sur ta vie et sur celle des lecteurs. Puis, tu l'intègres doucement. Doucement, tu acceptes son caractère. La phrase redevient un cours d'eau, vif ou tranquille selon la saison, la rivière Richelieu de ton enfance. Les virgules, de simples bouées. Tu discutes alors tranquillement avec gens de littérature, de cinéma, de bouturage, de pain au levain, de mille sujets. La curiosité est sans doute l'un des traits les plus partagés des correcteurs entre eux. Ils le partagent même avec les journalistes. C'est ainsi que tu dois à Jean le nœud de ton enquête et son point de départ. Un jour, en quel terme précis tu ne sais plus, il te fait découvrir l'existence de liens historiquement forts entre le métier de correcteur de presse, surtout la presse parisienne, et les milieux libertaires.
Un extrait de votre texte « Lézarde ». Hélène Frédéric, on est plutôt au début et d'une certaine manière, le projet du texte se dévoile à nous par la conversation entre Jean et la narratrice. L'idée de, entre autres choses, à la fois un portrait de ce métier-là, mais aussi une enquête sur les liens possibles entre un milieu libertaire et ce métier. Alors, quelle place vous allez faire à l'enquête dans le livre « Lézarde » ?
C'est réellement le prétexte ou le point de départ, oui, du texte, c'est cette découverte de liens historiquement forts entre le métier de correcteur en France et les milieux libertaires, anarchistes. Et j'y ai vu au départ une contradiction. C'est plutôt une fausse contradiction, puisque c'est lié à l'histoire syndicale et à l'importance du syndicat aussi des correcteurs. Mais je dis point de départ justement parce que je n'ai pas voulu évidemment écrire un livre historique, je ne suis pas historienne. Donc ça a été plutôt un prétexte et donc plutôt un voyage et une découverte de personnages importants de l'anarchie, entre autres des femmes qui ont été correctrices et qui sont vraiment des femmes très singulières par leur parcours et très fortes et très... Donc je pense à Rirette Maître-Jean ou à Amé Picré dont je parle... sur lesquels je m'attarde dans ce livre.
Oui, Rirette, il y a même un chapitre qui porte son prénom. Est-ce que vous pouvez évoquer une de ces figures-là, par exemple ? Et puis, ensuite, peut-être revenir aussi sur la notion de contradiction, parce qu'au départ, et c'est ça qui est très beau, c'est que vous trouvez étrange qu'il puisse y avoir à la fois une aspiration libertaire, un goût pour l'anarchie, et passer son temps et des heures et tellement de travail laborieux, difficile, jouissif, mais difficile, à poser des virgules, traquer la moindre faute. Ça vous paraît être, du côté de l'ordre et de la maîtrise, assez contradictoire avec des aspirations politiques prétendument opposées.
Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, on est là pour respecter, enfin, s'assurer que les règles soient respectées et on peut avoir une autre idée de l'anarchie. Mais il s'agit, en fait, d'un amour, surtout, de l'imprimé. En fait, ce sont des anarchistes, c'est des gens aussi qui croyaient ou qui croient à la responsabilité de soi-même dans l'acquisition d'un savoir. Et c'est commun à Rirette Maître-Jean et à Amé Picré, ce sont des amoureuses aussi de la littérature, des textes. Mais qui se sont donné aussi une grande liberté. Pareil, elles ont eu une enfance... enfin, beaucoup plus difficile que la mienne en l'occurrence, mais quand même aussi ont eu des difficultés à pouvoir s'instruire, ont dû arrêter l'école comme mes parents. Mais elles se sont données à elles-mêmes cette chance. Et je crois que c'est Mes Picré qui a fréquenté l'université populaire. Enfin bon, ce sont des personnes qui qui donnait une grande importance au savoir dans l'idée de justement de s'éloigner de l'obscurantisme et de se former un jugement critique à partir de ce savoir et aussi de cette façon de combattre les inégalités, de mieux combattre les inégalités, je pense, par l'acquisition de ce savoir.
C'est assez important, je le disais tout à l'heure, donc à la fois ce que le prétexte de l'enquête vous permet d'aller visiter, donc ces figures de femmes correctrices, par exemple, Hélène Frédéric, mais aussi la mention de toute la dimension de la transmission dans le métier des correcteurs, donc on entendait là la figure de Jean. Mission de transmission qui vous fait faire retour de manière assez inattendue à la transmission particulière de la figure du père. Et donc on revient à l'atelier de réparation d'électromécanique, et d'un seul coup, quelque chose du moteur du texte, de la manière dont ça roule, rejoint des moteurs mécaniques et peut-être des souvenirs d'enfance. Comment ça s'est invité dans l'écriture ?
Assez tôt, parce que en apprenant le métier, justement, j'ai assez tôt fait un lien de correctrice, pardon. J'ai fait le lien avec le phénomène de passage de savoir. J'ai fait le lien entre Jean et mon père assez naturellement, parce que j'ai vu mon père maîtriser un métier qui n'est plus du tout valorisé, de réparation de moteurs électriques et d'outils électriques et bobineurs de moteurs électriques. Je l'ai vu transmettre son savoir de manière très naturelle à mon frère, à moi un petit peu, à des apprentis. Et cette générosité de dire je donne, mais sans nécessairement attendre en retour, mais parce que je sais que c'est utile et parce que c'est ce que je peux offrir. Bien, j'ai senti la même chose quand j'ai appris auprès de mes collègues correcteurs. Et donc, ça c'est tout de suite, quand j'ai eu envie d'écrire sur ce sujet, j'ai fait le lien entre ces différents passeurs. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai compris que moi-même, peut-être par l'écriture, je transmettais aussi d'une certaine manière quelque chose, très modestement. Mais donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
Mais ça revient aussi à ce que vous disiez tout à l'heure des figures d'autodidactes, à la fois dans votre parcours et puis en vous-même, Hélène Frédéric, c'est que c'est une certaine circulation du savoir qui échappe un peu, en tout cas, à des points obligés de l'institution, à des points obligés de l'histoire ou des classes sociales, par exemple. C'est-à-dire que la circulation du savoir par les pairs et du savoir par la transmission par les pairs, P-A-I-R-S, oui. Et pourquoi pas par les pairs, mais c'est aussi une façon singulière de faire circuler le savoir.
Oui, alors je me suis dit aussi qu'en valorisant d'autres formes de transmission du savoir que la forme habituelle, école, grandes écoles, je ne sais quoi, justement peut-être qu'on favorisait encore plus la circulation du savoir, qui n'est pas accessible à tous. Et j'aurais, dans mon parcours, moi, personnellement, quand j'étais dans la vingtaine, j'aurais peut-être beaucoup moins souffert si j'avais su qu'on a le droit de faire ce type de parcours, de se nourrir autrement, de cheminer autrement dans les textes.
Que c'est tout aussi valable, en fait.
C'est tout aussi valable et que... tout aussi valable, en tout cas, c'est peut-être différent, mais en tout cas que ça a une valeur. Et il y a cette volonté-là d'explorer ça dans le texte, en parlant aussi d'Élisée Reclus, qui a été un anarchiste géographe qui aussi, pour qui la transmission du savoir, c'était un échange avec, c'était pas en surplomb, c'était pas quelque chose qui se faisait en surplomb, c'était un réel échange entre maîtres, entre guillemets, et élèves. Et j'ai aussi fait un lien avec la conception, très naturelle, sans doute pas théorisée, mais que mon père avait de la transmission. C'est-à-dire qu'une sorte d'échange, ouais. Et quand je l'ai vu avec ses apprentis, c'était ça, en fait. Les apprentis l'aidaient et en échange, lui, il apprenait des choses et voilà.
On va écouter la voix de Georges Navel, ouvrier, écrivain et correcteur.
Figurez-vous que j'ai été correcteur. Notre secrétaire de syndicat qui me disait, tu sais, t'es sympathique dans les équipes, et on dit, toi, tu es distrait. Je lui dis, j'ai écrit, donc je suis poète, et poète, c'est distrait, là. Il m'a dit, la distraction chez nous, c'est rédhibitoire comme l'ivrognerie. Alors, un jour, j'ai dit à un autre, je racontais le fait, je lui ai dit, tiens, un jour, on trouvera que je suis un homme si bien que j'ai pas le droit de gagner ma vie. Voilà, en réalité, j'étais pas inattentif, j'ai écrit des pages sur l'attention. J'ai manié les centièmes, j'étais donc présent, la poésie, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. C'est un mot indéfinissable. C'est l'indéfini. Mais il est sûr que c'est lié à la présence sensible au monde, la présence au tout, quoi, je crois. Bon, enfin, la rêverie, la sensibilité, comme ça. Là, on ne sait pas. Le mot est vague, hein. Ça ne sait pas. Tout n'est pas définissable. Pour les Français, tout est définissable, tout est dans la clarté, et il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas.
La voix de Georges Navel dans une archive de 1984. Georges Navel, né en 1904, mort en 1993. Donc, je le disais, ouvrier, écrivain, anarchiste, récemment redécouvert à la faveur de republications. Il a eu un certain succès en librairie et correcteur. Ce qui m'intéresse dans cette archive, outre ce ton, cette manière de bougonner un petit peu, c'est l'ouverture qu'il fait vers la poésie. L'inattention, le vague, la possibilité d'échapper à la définition. Il y a quelque chose qui rejoint la trajectoire de votre livre, Hélène Frédéric.
C'est très émouvant d'entendre Georges Navel, et j'ignorais qu'il avait été correcteur, donc je suis
un point de plus.
Oui, voilà.
Qui rejoint une sorte de liste que vous faites. Donc, on a évoqué certaines figures féminines, mais vous parlez aussi de Régent du Charme. Vous parlez de ces figures-là qui ont été à la fois dans cette police de la langue et tendu vers une forme de liberté, quoi, d'écrire, de penser, de désirer.
Mais c'est très beau d'entendre justement cette difficulté à définir la poésie. Je m'y reconnais, c'est sûr. Pour moi, la poésie, enfin, j'ai gardé cette formule d'enquête poétique pour mon livre tout au long de l'écriture. C'était une manière pour moi de m'assurer que je restais dans le langage. Enfin, il fallait que le langage ait une autonomie dans le texte et que ce soit pas un texte informatif ou un texte, ou en tout cas purement informatif. Je voulais que la langue soit, que les choses se passent dans la langue d'abord et avant tout. Donc, c'est peut-être une des définitions qu'on pourrait donner, en tout cas à mon sens, à la poésie. Mais présence sensible au monde, ça c'est sûr. Et vous parliez de Régent du Charme. Pour moi, c'est quelqu'un, un vrai poète d'une certaine manière, alors qu'il n'a pas forcément écrit de poésie, mais sa vie était littérature. Enfin, tout son être était, quand on lit sa correspondance, c'est très impressionnant de voir que, c'était un homme de lettres qui se refusait, qui se définissait pas comme un homme de lettres, mais qui, c'était un regard sensible sur le monde, un certain regard qui n'a jamais, une sensibilité qui n'a jamais quitté. Et je cherche à faire de tout poésie, d'une certaine manière. Je voulais que cette matière d'un métier, par exemple, puisse devenir poésie, comme le moment qu'on partage en ce moment, si ça pouvait devenir poésie.
Je ne t'en casse pas, c'est chaque jour.
Eh bien, c'est ça. Cet espace qu'on arrive à créer, et je pense que à la condition d'une langue qui fait corps, en fait. C'est pour ça aussi que j'insiste un peu sur le corps à certains moments. Voilà.
On va y aller justement sur le corps, et il me semble une forme de découverte entre la faute d'orthographe aimée par la narratrice et le désir et le rapport au corps qui est vibrant dans votre texte, Hélène Frédéric. Mais encore un instant, avec la voix de Georges Navel, il évoque aussi très rapidement une figure de syndicat, il évoque aussi son rapport au travail, la distraction. Il y a aussi une pensée du travail dans votre livre Lézarde, l'idée d'un travail qui s'appuie sur un refus du travail, mais c'est vraiment le paradoxe tenu toujours ensemble de beaucoup travailler, d'être très rigoureux dans son travail, mais que cet exercice du métier vienne refuser quelque chose du travail, ou du travail comme pensée dans la société hyper performante, hyper néolibérale.
Oui, il y a cette dimension. Il y a cette dimension-là. Jean aussi qui parle de ça, d'un travail fondé sur
le refus
du travail. Mais je pense aussi, en vous écoutant, au duo femme de lettres ouvrière que je nomme, qui est pour moi une sorte de façon de résoudre la contradiction dont je parlais, ou l'interdit dans lequel je suis. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se résout dans la littérature par ce duo de femmes de lettres et d'ouvriers du livre, entre guillemets. Donc c'est à ça que...
Qui permet d'embrasser le travail en refusant le travail.
Ouais, voilà.
Bingo. On écoute un autre extrait de votre texte, Lézarde.
«
La langue est faite de poussière et elle est faite de rêves. Malgré sa difficulté à nommer, malgré tout ce qui la lézarde, elle donne forme à nos existences. Et la nécessité d'y mettre un peu d'ordre, de lui administrer une correction, met toujours un faux paradoxe. La langue est à l'image de nos existences. Pour savoir accueillir nos failles, elle doit être souple, hospitalière. Et pour tenir, pour demeurer intelligible, il lui faut aussi respecter quelques codes. Nous sommes nous-mêmes un texte que nous apprenons à lire, à déchiffrer, à écrire peut-être. Et si nous ne le faisons pas, nous n'accédons pas au désir de parole qui anime tout être humain. Nous étouffons, nous crions de détresse, nous sommes malheureux comme les pierres. Nous devenons fous alliés. Nous lançons des pierres. Tes moindres gestes consignés, la moindre intensité s'inscrivait dans un livre imaginaire, certes banal, mais ta vie prenait une forme, créait sa voix. Et l'intensité pourrait devenir ainsi transmissible. Du moins, ton existence pourrait devenir une tentative de transmission. Livre et transmission vont de pair avec éternité. Peut-être cherche-t-on, en faisant de soi un texte, à simplement fixer quelque chose, à rendre le rêve palpable, accessible.
Un extrait de votre texte « Lézard » d'Hélène Frédéric. On avance plutôt vers la fin et il y a quelque chose dans ce texte qui devient un outil de compréhension, un outil de connaissance. Le corps du texte lui-même nous permet d'y comprendre quelque chose de neuf, à mon sens. On avait l'impression qu'on s'apprêtait à lire un texte sur un métier menacé, voilà, la correction, les correcteurs. Et puis quelque chose de vous s'y glisse, qui nous emmène à un endroit très singulier, je trouve. L'idée que faire de soi un texte, c'est donner forme à son existence. L'idée qu'il y a dans le goût pour la faute d'orthographe, quelque chose qui rejoindrait le sujet du désir et la grande liberté, Hélène Frédéric. Moi, j'ai eu l'impression d'un virage comme ça dans le texte. Est-ce que c'est aussi ce qui s'est passé pour vous à l'écriture? Parce qu'il s'ouvre à un moment donné le texte quand même.
Oui, je pense que c'était là dès le début. Enfin, après comment l'insérer dans le texte, j'y ai mis le temps. Je pense que c'était.
Mais c'était là
notion,
dans le texte.
Cette notion de faute et de désir se mêlait dès le début à cette question de. C'est extrêmement difficile à réfléchir là tout haut.
Parce que c'est très singulier, mais c'est quand même. Enfin, c'est le trésor, il me semble. Avec quoi on repart quand même de la lecture. Donc c'est pour ça que je voudrais qu'on essaye quand même de se donner.
Je comprends. Ouais. J'essaie de vous répondre. Oui, il y a quelque chose qui s'articule, c'est sûr, autour de cette question de la faute que j'embrasse et de la. D'ailleurs, je fais le lien avec la question de la dette que j'embrasse, qu'on embrasse pour mieux cohabiter avec elle. Mais extrêmement difficile à expliquer. C'est quelque chose de.
Est-ce que je vous aide si je dis qu'à la fin du texte, il n'est plus tant question de corriger les fautes ou la faute, et notamment celle d'être une femme qui pense et désire librement, mais d'embrasser les fautes? Il y a quelque chose de cet ordre-là. On pourrait dire que le chemin, un des chemins du texte, ça pourrait être un des chemins du texte?
Oui, sûrement. Mais je pense aussi à la question de l'émancipation, qui est certainement un fil conducteur du texte et avec mes autres livres aussi, d'une certaine manière. Mais pareil, de la même façon, c'est pareil, c'était inconscient au fil de l'écriture, je pense, mais c'est à cette notion d'émancipation que je pense quand vous parlez de la faute à embrasser et du corps et du désir qui s'articule au texte. Mais voilà.
C'est pertinent. On va écouter Christophe. Il est libraire dans une maison qui s'appelle Le Sceau du Livre à Joigny dans l'Yonne. Il vous a lu et il vous pose une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Hélène Frédéric. Au Sceau du Livre, nous avons un peu de mal avec les romans qui parlent de leurs auteurs. C'est dire si on a été servi cette année. Or, nous avons adoré votre nouvel ouvrage. On y trouve même de la philosophie, parce qu'enfin, cette lézarde dont vous nous parlez, cet entre-deux, ne concerne pas seulement l'imprimerie, vous en faites un véritable concept. C'est pour cela que j'aimerais vous poser la question suivante. Quel est donc votre rapport avec la philosophie, Hélène Frédéric? Merci d'avance pour votre réponse et merci pour ce livre.
Merci Christophe pour cette lecture et pour cette question, Hélène Frédéric.
Alors, j'ai un rapport assez distant, quand même, avec la philosophie. Là, très rapidement, je pense à Foucault, que je cite indirectement dans le livre, et au morceau de nuit, cette part d'inconnu. Quand je parle du noir, je fais aussi référence, d'une certaine manière, à la philosophie, au morceau de nuit, cette part d'inconnu que l'on porte en soi et qu'en acceptant, peut-être ça nous permet d'aller vers l'autre et à toute cette pensée là qui m'a, enfin, l'histoire de la sexualité
avec Annie Lebrun aussi.
Avec Annie Lebrun
sur
aussi.
Ce terrain-là. Ouais.
Que j'aime énormément. Et c'est une matière que j'ai adorée, mais j'ai un rapport plutôt, en tout cas par rapport à ce livre, je n'ai pas réfléchi en termes de tiens quel philosophe je pourrais lire. J'ai envie de dire, je me bricole aussi mes propres théories, ma propre philosophie à partir de lectures, mais de manière lointaine.
Mais j'ai l'impression aussi que c'est ce que sous-entendait éventuellement Christophe, c'est que au final, de ce lézardage, de ce lézarder, de ce lézarde du début du texte, quelque chose d'un concept de la lézarde peut-être pourrait advenir à la fin du texte, sans plus de prétention que cela. Mais manifestement, pour Christophe, ça a existé, donc c'est pas mal, non?
C'est pas mal, oui.
Le bouquin continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, dans le Book Club, on retrouve Mathilde Wagman qui a préparé avec moi cette émission, qui a aussi beaucoup aimé votre livre. Hélène Frédéric, bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'un chef-d'œuvre de la bande dessinée qui a paru des décennies durant dans la presse.
Et oui Marie, je l'ai mentionné très souvent cette œuvre à ce micro, en passant à propos d'autres livres, pour tâcher de caractériser une forme de comique de l'absurde ou de métaphysique des cases. Cette bande dessinée est un classique, une étape fondamentale dans l'histoire du 9e art aussi. Elle a marqué des générations et des génération de lecteurs et d'auteurices, il était temps que je vous en parle pour elle-même. Il s'agit de la série des Peanuts de Schultz, dont le personnage le plus célèbre est sans conteste le fameux chien philosophe Snoopy. L'occasion m'en est donnée par l'apparition d'un beau recueil aux éditions d'Argo, Peanuts Every Sunday 1952-1955, soit les planches en couleur parues dans divers suppléments dominicaux de la presse américaine entre janvier 1952 et décembre 1955. C'est en réalité l'adaptation en français d'un volume publié aux États-Unis par l'éditeur Fantagraphics.
Peanuts fait partie de ces bandes dessinées que tout le monde connaît, j'avoue, pas moi, sans forcément les avoir réellement lues, Mathilde.
Et bien justement, absolument, c'est tout l'intérêt d'un tel volume, nous permettre de les lire vraiment et avec attention. Pour comprendre ce à quoi nous avons affaire avec ces pages, il faut d'abord rappeler le contexte qui les a vues naître. C'est ce à quoi nous aide l'introduction, signée d'un critique de cinéma, Jonathan Rosenbaum, et plus encore la notice biographique finale, signée Gary Groff, qui n'est autre que le fondateur des éditions Fantagraphics. Charles Monroe Schultz est né en 1922 dans le Minnesota et il a grandi à Saint-Paul. Sa future vocation fut tôt nourrie par la passion que son père avait pour les comics qui paraissaient dans les journaux du dimanche et que ce dernier achetait en plusieurs exemplaires pour que toute la famille puisse les lire. L'extraordinaire essor que connut la presse américaine à la fin du 19e siècle a en effet été accompagné de l'apparition dans les journaux de ces dessins humoristiques que l'on a appelés des strips, c'est-à-dire des bandes horizontales de quelques cases mettant en scène des histoires comiques. Et ce, sous deux formats, les daily strips, qui paraissaient dans les quotidiens, en noir et blanc, et sur une seule ligne ou une seule bande, mais aussi les Sunday strips, ceux qui figuraient dans les suppléments du week-end, en couleur et sur l'espace d'une demi-page ou d'une page entière. Ces bandes dessinées étaient distribuées par des syndicats de presse qui les achetaient à leurs auteurs et les revendaient à différents journaux dans tout le pays. Entre 1947 et 1950, à Saint-Paul, Schultz parvint à vendre au journal local un strip hebdomadaire scolaire qu'il avait intitulé « Little Folks », expression que l'on peut traduire par « les petits gars », les ancêtres des peanuts. Après 2 ans, il demanda une meilleure rémunération qu'on lui refusa et c'est alors qu'il se tourna vers les syndicats de presse. Au printemps 1950, le United Feature Syndicate lui acheta les premières planches de ce qui devint les peanuts, un titre que Schultz n'avait pas choisi et qu'il n'aimait pas du tout. Peanuts, autrement dit cacahuètes, double renvoi à la toute petite taille des personnages, mais aussi à quelque chose de peu de valeur. C'est peanuts, dit-on en français. Le tout premier strip quotidien paru le 2 octobre 1950 et le premier strip du dimanche le 6 janvier 1952. Les strips quotidiens avaient déjà été publiés par Dargo en 26 volumes noir et blanc sous le titre Snoopy et les peanuts. 26 volumes car pendant 50 ans et presque jusqu'à son dernier souffle, le dessinateur aura écrit, dessiné et lettré lui-même tout seul quelques 17 897 strips et 2506 pages du dimanche. Ce sont les deux premières années donc de ces Sunday Pages en couleur qui sont ici rassemblées dans un beau livre de format à l'italienne.
Oui, alors qu'est-ce qu'elles contiennent ces planches, Mathilde ?
Le bonheur de ce volume est de nous faire découvrir la bande d'enfants que la série met en scène à ses débuts, soit une petite communauté de gamins que l'on voit jouer, faire du sport, se disputer, deviser, disserter, avec en leur centre Charlie Brown, l'enfant qui toujours échoue. Mais il y a aussi la gamme des personnages qui l'entourent, dont certains seront abandonnés ou mis de côté par la suite. Violette, la brunette, Patty la rousse, Schroeder, le blondinet qui ne pense qu'à son piano et à Beethoven, ou encore Lucy, appelée à jouer un rôle central ensuite, mais qui la première fois qu'elle apparaît a l'allure d'un gros bébé sachant à peine parler. Snoopy, lui, n'est alors qu'un chien à 4 pattes, et sur 4 pattes, pas encore le personnage principal qu'il deviendra. Il ne passera d'ailleurs en position debout qu'en 1958, ce qui lui donnera une allure plus humaine. Comme tout groupe humain, ces êtres sont en proie au découragement, à la jalousie, à la domination de certains sur d'autres. On a souvent dit des peanuts qu'elles traitaient de métaphysique, mais c'est plutôt de philosophie politique dont il est question ici, me semble-t-il. Dans Little Folks, le titre original, il faut aussi entendre folks au sens de peuple. Ce qui s'observe ici, c'est la façon dont s'organise une société et avec quel jeu de pouvoir. J'ai été très frappée à ce titre par la place faite aux personnages féminins dans ces premières scénettes, à l'instar de toutes ces histoires où Charlie Brown enrage de se faire battre aux dames, au golf, au baseball par Lucy, qui savoure son évidente et naturelle supériorité. Un livre qui appartient donc à cette catégorie de ceux que vous pouvez offrir à un enfant pour mieux lui piquer en douce lorsqu'il ou elle a le dos tourné.
On sent que vous préparez une sorte de petite hôte de Noël, Mathilde Wagman.
J'avoue.
Pour cela, on peut donc aller consulter toutes vos lectures jeunesse sur franceculture.fr.
Absolument.
Ça donne des idées. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
La fin du book club se fait toujours en musique. On a parlé de votre amour de la chanson et de la musique, Hélène Frédéric. Ça s'appelle le grand jeu des pages musicales. Nous jouons chaque jour à chercher la musique, avec plaisir, avec ardeur, dans les textes. On se quitte donc avec un extrait de votre texte à vous, Lézarde. Les vrais rebelles ne font pas beaucoup de bruit. Tu l'as appris tôt. Ils agissent dans l'ombre et les raisons de leurs gestes échappent aussi au regard. Il est le premier en dehors que tu as connu, le premier passeur aussi. Le savoir de ton père est ce qu'il a de plus précieux et il est naturel pour lui de le transmettre. En écoutant à ses côtés Brassens ou Ferret ou Barbara ou les frères Jacques, en rigolant, je balaie, je nettoie les pièces d'outils graisseuses avec du distillat de pétrole, je gratte la rouille à la brosse d'acier ou au jet de sable. Le carbone salit les doigts décidément et s'incruste sous les ongles. J'aide, j'assiste, je classe les pièces neuves reçues de livreurs parfois intimidants, parfois séduisant, j'apprends la soudure à l'étain.
À l'école des beaux-arts, je vivais comme un lézard. Je ne foutais rien, soir et matin. Je passais mon temps à faire l'idiot devant les copains. À l'école des beaux-arts, on chantait cet air bizarre où
cet air que je me rappelle un peu. Écoutez-le. Papa peint dans les bois.
Merci beaucoup Hélène Frédéric d'avoir été avec nous pour parler de votre livre Lézarde, paru aux éditions Verticales.
Merci beaucoup.
Et puisque nous avons parlé de transmission du savoir et des pratiques, je laisse le générique à deux jeunes voix aujourd'hui.
Au son aujourd'hui, Jordan Fuentes.
À la réalisation, Vivien Demeyer.
Moi, je suis Sidori. Je suis en stage à Radio France cette semaine et aujourd'hui j'étais au Book Club. Merci à toute l'équipe.
Moi, je suis Maceo. Je suis aussi en stage à la radio cette semaine. Pour continuer la conversation, rendez-vous sur le compte Instagram du Book Club.